Le prophète voit que cet homme est pris de panique puisqu'il rencontre le plus grand de ce monde. Le prophète le réconforte en lui disant Hawil alayk, ya akhal arab. Hein? Ne panique pas, ô mon frère, car je ne suis que le fils d'une femme de la Mecque qui mangeait de la viande séchée. Hein? Il rappelle à cet homme sa condition humaine. Sa dimension humaine et sa dimension de quoi ? D'homme humble. D'ailleurs, il dit je mange comme un esclave, je m'assois comme un esclave. C'est-à-dire je m'assois par terre comme les esclaves s'assoient par terre. Et je mange ce qu'ils mangent. Je n'ai pas un repas particulier. D'accord ? Donc, l'objectif hein, de tous ces enseignements, c'est de ne pas tomber dans l'adoration d'autre que Dieu. Hein ? Nous, seul Dieu a tous les pouvoirs, seul Dieu est sans limite, les êtres humains sont limités. Donc, Noël ouais, a une dimension spirituelle chez les chrétiens. Chez nous musulmans c'est une fête nationale puisque c'est férié, d'accord, donc on profite de ce jour là pour rester avec nos enfants, pour faire ce qu'on ne peut pas faire quand on travaille, sans plus, d'accord. Et à la rigueur, si nous devons pendant cette période, nous musulmans, faire quelque chose, alors organisons des manifestations en direction de nos frères musulmans dans nos mosquées ou à l'extérieur des mosquées pour leur rappeler qui est Issa et l'enseignement de Issa alayhi salam. D'accord ? Pour justement qu'ils distinguent bien le personnage, qu'ils fassent la distinction entre le personnage vu sous l'angle de l'islam et le personnage vu sous l'angle du christianisme. Ou organisons aussi des manifestations en partenariat avec qui ? Avec nos amis chrétiens. Pourquoi ? Pour justement parler de Sayyidina Issa. Donc, expliquer à nos amis chrétiens qui est Sayyidina Issa chez nous, les points communs et les points de divergence. Et nous aussi, écouter nos amis chrétiens nous parler de Sayyidina Issa chez eux, qui il est réellement. D'accord ? Parce que on doit savoir qui il est. Bien que le Coran nous a déjà averti en disant que voilà ce que certains chrétiens pensent de Sayyidina Issa, et le Coran répond à leurs dogmes, à leurs croyances. Mais il y a beaucoup de choses dont ne parle pas le Coran, puisque la littérature chrétienne sur Sayyidina Issa, elle est abondante. Donc on a besoin de quoi ? On a besoin d'écouter. C'est pour ça, ça serait bien que dans les mosquées, en cette période, nous invitions certains dignitaires religieux et on leur donne le micro, le minbar. Pourquoi ? Pour qu'ils ne parlent de Sayyidina Issa chez eux. Comme ça au moins on comprendra pourquoi est-ce qu'ils se comportent de cette manière, pourquoi est-ce qu'ils le vénèrent de cette manière. L'ignorance est quelque chose qu'il faut combattre dans les deux communautés. D'accord ? Donc certains musulmans par effet de mode, puisque comme je vous ai dit c'est une période de festivité, on le voit, d'accord, en tendance à quoi ? En tendance à dépasser les limites, et on le voit avec certains qui achètent des sapins de Noël, c'est ça, qui enguirlandent leur maison. Bref, tu rentres dans un foyer musulman et tu dis est-ce que c'est l'Aïd ? Et d'ailleurs pendant l'Aïd ils font pas ça. Ils le font quoi ? Ils le font à Noël, parce que c'est un effet de mode, parce que c'est l'assimilation culturelle de certains musulmans, de certaines familles musulmanes. Alors certains vous diront, ouais mais il n'y a pas de mal, je veux bien, mais il y a une condition. Pourquoi est-ce que vous ne faites pas ça quand c'est l'Aïd, le Ramadan, et quand c'est l'Aïd je vais aller dans votre sens, il n'y a pas de mal. Où est le mal alors à le faire pendant l'Aïd ? Pourquoi vous ne l'avez pas fait pendant l'Aïd ? Pourquoi vous n'avez pas décoré votre maison pendant l'Aïd ? Pourquoi vous le faites uniquement pendant Noël ? Alors je ne parle même pas, je veux dire, de l'erreur de le faire, mais on va aller dans cette logique. S'il n'y a pas de mal, ben je vous prends au mot, faites ça pendant l'Aïd du Ramadan, l'Aïd du sacrifice, et faites ça aussi l'anniversaire du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et faites ça quand ça sera l'Hégire, Et puis après, je vous ferai plus aucune remarque ni aucune reproche. Mais c'est pas le cas, malheureusement. Hein? Alors, tout ça, c'est dû à quoi? C'est dû à l'ignorance. Hein? Je ne suis pas ici pour condamner. D'ailleurs, c'est pas notre objectif. Notre objectif, c'est quoi? C'est de transmettre, d'échanger pour comprendre et ensuite évoluer. Ok, donc voilà ce qu'il en est hein, de cette période de festivité. Mmh. Maintenant, qui est vraiment Sayyidina Issa pour nous, musulmans hein? Donc ça, c'est la question fondamentale que les musulmans doivent se poser pendant cette période. Alors, il y a des livres hein, qui sont très 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 bien faits. J'en avais lu un il y a très longtemps qui s'appelait Jésus dans le Coran. Ouais. Un autre livre aussi qui s'appelait Mohammed dans la Bible. Hein? Jésus dans le Coran, qu'est-ce que dit le Coran de Sayyidina Issa, et est-ce que le prophète Mohammed est cité dans la Bible, oui ou non? L'auteur, je crois qu'il s'appelle Alam, je ne sais plus comment, mais c'est un très 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 bon livre qui m'avait énormément plu parce que il y avait des citations. L'auteur allait dans les sources chrétiennes et cité, et dans les sources musulmanes et cité. Donc vous avez les textes, il suffit de les lire et de les comprendre. Et beaucoup d'autres, surtout un égyptien, un spécialiste hein, du dialogue islamo-chrétien qui s'appelle, je crois que c'était Cheikh Abdel Wahab quelque chose, il a écrit énormément de livres, c'est pas un seul hein, sur le christianisme et l'islam, sur Aïssa, Marie, etc. Ce sont des très 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 bons bouquins. Donc n'hésitez pas à aller à la librairie Saphir, c'est ça, rue de l'École, et puis à acheter 2-3 livres, à les lire pour bien comprendre, et puis à les offrir, pourquoi pas, d'accord hein, à offrir ça à votre voisin, à votre ami, à votre collègue de travail, en disant, bah, voilà qui est Jésus chez les musulmans, lisez, puis vous verrez. Moi je me souviens, il y a plus de 15 ans, j'avais été invité par un prêtre chrétien, pendant cette période hein, de Noël, il m'avait demandé d'intervenir sur Jésus et Marie dans le Coran d'après les musulmans. Donc c'était dans une salle paroissiale. Il avait invité ses ouailles et j'ai fait une intervention pendant plus d'une heure et demie et ça avait énormément plu au public parce que c'était des gens qui découvrait pour la première fois la place de Jésus et de Marie dans le Coran. Il ne savait pas que le Coran mettait en valeur ces deux personnages centraux dans le dogme, la religion chrétienne. Mmh. Et ils ont même été émerveillés puisqu'ils s'y retrouvaient, hein, puisque les passages entiers du Coran font référence à des moments de la vie de Marie de Aïssa qui sont dans la Bible. Dans les évangiles, ça, il y avait des concordances, mais après il y avait des divergences, mais ils ont été étonnés de voir que le Coran parlait de ces concordances. Pour eux, le Coran, c'est un livre iconoclaste qui a pour objectif de détruire tout ce qu'il y avait avant. C'est ça. Hein, le Coran est venu, pourquoi? Pour brûler toutes les croyances, tous les livres. Toutes les religions. Alors que c'est faux. Le Coran est venu comme rénovateur.
Oui. C'est dans la continuité.
Dans la continuité. Wa ma kuntu bid'an min ar-rusuli. Je ne suis pas un innovateur parmi les prophètes. Hein? Dieu dit dans le Coran, à travers la bouche du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, je ne suis pas un innovateur. C'est-à-dire, moi, je ne suis qu'un maillon d'une longue chaîne. Composé de quoi? De milliers de prophètes qui n'ont fait que transmettre la même vérité. D'accord? Donc ce que je dis, c'est pas quelque chose de nouveau, c'est quelque chose qui existe. Et si je dis quelque chose qui est en contradiction avec ce que vous avez, c'est parce que ce que vous avez est en contradiction avec ce que vos prophètes vous ont enseigné. C'est pas moi qui ramène quelque chose de différents. Hein, non, moi je ne fais que
confirmer ce qu'il y avait.
Confirmer, c'est ça. Hein? Et c'est ça la vérité ultime. Donc qui est Sayyidina Issa? Avant de parler de Sayyidina Issa, il faut parler de sa mère. D'accord? Et de son père, parce que c'est lui qui cause problème.
Bon ben on verra l'approche des parents de ou du parent ou de la parente de Sinarissa et de sa biographie tout de suite après. Farid, on se fait une très courte pause, 5 minutes de récitation de Coran et on se retrouve tout de suite après Shalom. Après cette pause coranique, on va reprendre le cours de l'émission, l'émission La Prophétie, ensemble jusqu'à 22h. Je rappelle le numéro du standard 03 20 73 59 00, 03 20 73 59 00. Vous pouvez nous appeler si vous avez envie de poser une question, quelle qu'elle soit. Avant de reprendre le cours de l'émission sur le prophète Jésus, le prophète Aïssa, et aborder notamment d'abord un petit aperçu de la vie de Maliam et ensuite de Harissa, on va juste rappeler quelques petites informations. Il y a eu la mosquée Aboubakar qui nous a appelé pour dire qu'ils organisaient, enfin c'est la section des femmes de la mosquée Aboubakar, 3 places Feder Baroubé, qui organise une conférence comment éviter la perdition, donc une conférence ouverte aux femmes. Ce sera le 3 janvier à 15h, 3 janvier à 15h à la mosquée Aboubakar, 3 places Federm, et une autre conférence organisée
samedi 27 décembre à 19h30, conférence du frère Youssef, le vrai sens de la fraternité, donc c'est l'ancien imam de la mosquée des Trois Ponts que tout le monde connaît. Donc ce sera l'espace Jules Bram, numéro 21, avenue Jules Bram, c'est à Roubaix, c'est aux Trois Ponts, c'est à côté de la mosquée Ar-Rahma, donc l'entrée de 5€. Donc voilà pour l'information. Il y avait l'information aussi à Avion. Par contre,
Tu l'as, c'est bon.
Ah oui. Festiraid à Avion, donc quartier République. C'est de 14 à 19h. C'est avec Omar Lasfar et Hassan Kusan ici présent. Groupe de chant, il y aura des sketchs et l'entrée est gratuite. Donc voilà, donc Omar Lasfar, recteur de la mosquée de l'île Sud et aussi. Président du CRCM, donc Conseil Régional du Culte Musulman.
Et enfin, la Sève, une mosquée de Villeneuve-d'Ascq organise Fektikbir, c'est édition 7, ça veut dire c'est la 7e année. Ça se passera le 23 décembre 2008 à 18h à l'espace Concorde, donc avec plusieurs intervenants, Coral Taouba, groupe El Istiqama, spectacle de rap oriental comique, Khalid Belrouzi, nouveau sketch de certain nombre de choses, village enfant, bref, restauration sphère plat possible, une participation de 5€, tarif réduit pour les enfants. On aura la possibilité de...
Le lieu, je disais, c'est la salle Concorde.
Oui, l'espace Concorde à Villeneuve-d'Ascq, oui. Je l'ai dit, mais peut-être pas de façon incomplète.
Je suis désolé, c'est pas...
Espace Concorde à Villeneuve-d'Ascq.
Cousinerie,
oui. Le 23 décembre 2008 à 18h. Soyez attentifs, au cours de l'émission, vous avez possibilité de gagner 4 places, c'est ça Farid? Donc on va poser 4 questions au cours de l'émission pour pouvoir gagner 4 places à cette édition 7 de Fektikbir. Tu voulais rajouter quelque chose?
Peut-être au niveau de la RD, hein, vu que c'est bientôt l'hiver.
Oui, nous à chaque émission, on rappelle que quand on fait une récolte de viande, pour les différents couscous qu'on organise chaque week-end à destination des nécessiteux. Donc si vous avez de la viande à nous offrir et à offrir à ces nécessiteux, vous pouvez toujours nous contacter ou le déposer directement à la NRJ 301 rue Jules Guedes à Roubaix. Notamment la viande de l'Aïd, si vous l'avez stocké quelque part et que vous voulez en faire don, il n'y a pas de souci, on récupère ça 301 rue Jules Guedes à Roubaix.
Vous pouvez aussi nous contacter par email.
Alors rappel, pastelfm.prophétie, c'est ça?
Non, pastel.prophétie@laposte.net. pastel.prophétie@laposte.net.
Bien. Ça fait beaucoup d'informations, j'espère que... En tout cas, si vous voulez avoir plus de détails ou vous n'avez pas bien compris, bon, on rappellera, mais vous avez le numéro du standard, vous pouvez nous appeler pour avoir toutes ces informations. 13 59 00. Cheikhouna Hassan.
Magnifique.
On reprend
avec les parents.
Les parents.
De Sayyidina Aïssa. Donc les parents, au pluriel, c'est ça? Alors, il est évident que dans la tradition musulmane et le dogme musulman, Sayyidina Aïssa, alayhi salam, ce qui fait sa particularité, c'est qu'il n'a qu'une mère comme parent. D'accord? Donc ça, c'est un consensus. Le Coran ne parle pas du père de Aïssa, alayhi salam, uniquement parce qu'il n'a pas de père. Alors vous allez me dire comment fait un enfant pour naître sans père. C'est une très bonne question d'ailleurs qu'a posée sa mère, à l'ange Gabriel qui l'a interpellé en lui disant qu'elle allait avoir un enfant. Et elle lui a dit, comment aurais-je un enfant sans avoir de mari? Donc c'est la règle, c'est la loi physique qui existe sur terre. Et Maryam qui ne doute pas de la puissance et de la grandeur de Dieu, mais comme musulmane soumise, elle sait que sur terre les musulmans doivent se soumettre comme toutes les autres créatures aux règles qui gèrent ce bas monde. Le miracle, qui est l'intervention de la puissance de Dieu sans passer par ses lois, est une exception. Vous entendez ? C'est une exception. Donc elle a dit à l'ange, وَأَنَّ يَكُونُ لِي وَلَدٌ وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرًا. Comment aurais-je un enfant alors que je n'ai pas de mari, je n'ai pas d'homme ? Et là, l'ange lui répond avec la logique du croyant soumis, c'est kadhaliki, c'est ainsi, ton Seigneur en a décidé. Dieu l'a décidé, n'en déplaise au monde entier, même si ça peut choquer quiconque. Et elle, bien entendu, si Dieu l'a décidé, j'accepte la volonté, la décision de Dieu. Et Maryam est tombée enceinte par la volonté de Dieu, car quand Dieu veut qu'une chose soit, il lui dit soit, et la chose devient, elle est sur place. Il n'y a rien qui résiste à la volonté, à la puissance de Dieu. Donc il n'a pas de père. C'est une vérité coranique, c'est une vérité islamique. Chez nos amis chrétiens, Jésus, c'est Jésus, fils de Joseph, qui est lui-même le fils d'un tel, qui est lui-même le fils d'un tel, et en fonction des évangiles, on remonte jusqu'à Abraham, en passant par Salomon, etc., avec des divergences dans cette généalogie. En fonction des évangiles, on a parfois des divergences. Alors, il est évident que les chrétiens pensent que Jésus n'a pas de père biologique. D'accord. Mais ils disent que Marie avait un époux qui s'appelle Joseph, avec qui, d'après certaines traditions chrétiennes, elle aurait eu d'autres enfants. D'accord. Donc elle avait cet époux et elle va le garder. Maintenant, le Coran ne parle pas de tout cela, ni la sunna du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Donc nous, musulmans, nous nous abstenons. On ne dit pas que c'est vrai, on ne dit pas non plus que c'est faux. C'est ce que dit le hadith. Ne dites pas ce que les juifs et les chrétiens racontent des récits précédents, de la vie des prophètes et des événements précédents. Ne dites pas que c'est vrai, ne dites pas que c'est faux. Car il peut que ce soit vrai. Et si vous démentez, vous avez nié une vérité, mais il se peut aussi que ça soit faux. Et si vous dites que c'est vrai, vous avez rendu quelque chose de faux vrai. Donc le mieux, c'est on s'abstient. Cependant, nous avons toujours la possibilité d'apporter une critique qui sera le fruit de notre compréhension du Coran. C'est-à-dire, si le Coran dit quelque chose et la tradition chrétienne dit le contraire, à ce moment-là, on dit que c'est faux. Parce que nous croyons que le Coran est au-dessus de toute littérature religieuse. Donc Allah alam, nous n'avons pas la possibilité de dire est-ce que Maryam alayhi salam avait un mari, est-ce qu'elle a eu des enfants par la suite. Tout cela, ça reste du domaine de l'invisible, et même le musulman ne se pose pas ces questions-là.
Ça n'a pas d'importance.
Parce que ça n'a pas d'importance, ce n'est pas essentiel. Car si ça avait de l'importance, Dieu l'aurait
mentionné
dans le Coran ou dans la Sunna. Donc quand Dieu se tait, ne dit rien du tout, le musulman n'a pas à chercher. Bon, parce que c'est une perte de temps. Le musulman va vers l'essentiel. L'essentiel, c'est que Marie est une femme extraordinaire. Pourquoi ? Parce que sa mère était extraordinaire. L'épouse de Imran, vous avez deux sourates du Coran qui parlent en détail de Marie de Isa. C'est la sourate Ali Imran et la sourate Maryam. Et si vous prenez ces deux récits, vous les juxtaposez, vous les mettez ensemble, vous aurez la biographie de ces deux personnages de manière exhaustive. Donc, c'est la mère de Maryam, donc l'épouse de Imran, comment s'appelle-t-elle? On ne sait pas. Dieu dit Imra'atu Imran,
l'épouse
de Imran. Point final. Alors est-ce qu'elle s'appelait Elisabeth ou est-ce qu'elle s'appelait Anne? Ça, c'est la tradition chrétienne qui le dit. On ne sait pas. C'est peut-être vrai, c'est peut-être faux. Peu importe, c'est pas ce qui compte. Ce qui compte, c'est que cette femme, donc la grand-mère de Sayyidina Aïssa maternelle, c'est une femme pieuse. D'accord? Et elle aussi, elle a eu un enfant, donc Maryam, et c'est un enfant miraculé. Car, aussi bien Imran que son épouse était âgée, elle était ménopausée, donc d'après les lois
biologiques
qui gèrent cet univers, elle ne devrait pas avoir d'enfant. Elle l'a quand même eu par la volonté de Dieu. Donc, elle met au monde Maryam, mais elle a décidé que Maryam ait un cursus scolaire et universitaire différent des autres enfants. Donc, elle va étudier, elle va se spécialiser dans l'étude des textes religieux et son métier, d'accord ? Elle étudie pour avoir un diplôme, pour faire un métier qui est s'adonner au temple, être au service de Dieu et des serviteurs de Dieu. D'accord? Et la mère de Imran, qui avait souhaité cela pour son enfant, va être choquée quand elle met au monde une fille. Mm-hmm. Parce que ça, c'était en principe les tâches qui étaient réservées aux garçons. Parce qu'il y a de la mixité, elle doit être au service des hommes et des femmes. Je veux dire, c'était quelque chose qui demandait beaucoup de force. Mais elle a eu une fille. Et Dieu lui dit, je sais ce que je fais, n'aie crainte. Ouais, tu m'as demandé un garçon pour être à mon service. J'ai répondu, j'ai exaucé ton souhait, pas comme tu veux, mais comme moi je veux, parce que ce que je veux est meilleur que ce que tu veux. Donc, à la Maryam, Maryam va être élevée par qui? Par des prophètes, par des gens pieux. Elle va être élevée par
Zacharia,
d'accord? Qui est son oncle. Hein? Zacharia est l'oncle de Maryam. Et c'est un prophète qui lui-même va avoir un enfant à un âge assez tardif et son épouse aussi. Et cet enfant, c'est qui? C'est Yahya. Mm-hmm. Hein? Donc le cousin de Issa. Yahya, celui qui donne la vie, celui qui donne la vie spirituelle, celui qui va annoncer la venue de Aïssa, celui qui prépare le terrain. D'accord? On l'appelle Jean-Baptiste, c'est ça. Celui qui baptisait les gens, celui qui convertissait les gens, celui qui les rappelait à la soumission de Dieu. Donc, elle est élevée donc par des gens pieux, par des prophètes, dans la piété, dans l'adoration, dans le savoir et la science religieuse. Jusqu'au jour où Dieu a décidé qu'elle accomplisse la mission pour laquelle elle a été créée, de mettre au monde cet homme qui lui va servir le temple comme il se doit, cet homme qui va être au service de toute l'humanité, qui va éclairer toute l'humanité. Et elle est interpellée donc par l'ange qui lui dit, tu vas avoir un enfant. Réaction tout à fait naturelle. Je ne suis pas une femme de mauvaise mœurs, ok? Je suis la sœur spirituelle de Aaron qui était connu pour sa piété, pour sa ferveur. Donc, je ne m'adonne pas à ce genre de choses. Non. Tu auras un enfant parce que Dieu l'a voulu, même si tu n'as pas eu de contact charnel avec un homme. Et c'est ce qui va se passer. Elle va mettre au monde Aïssa. C'est pour ça que le Coran l'appelle Aïssa le fils de Marie, de Maryam. Et non pas Aïssa le fils d'un éventuel homme, puisqu'il n'en a pas. Mm-hmm. Donc, nous ne disons pas Jésus, fils de Joseph. Parce que c'est un non-sens, ce n'est pas une réalité. Joseph n'est pas son père. Peut-être qu'il est le mari, il est devenu le mari de sa mère. Mais ça, c'est pour nous une information qu'on ne confirme pas, qu'on n'affirme pas.
Hassan, prends ton casque, il semblerait qu'on ait quelqu'un à l'antenne, donc on va le prendre ou on va la prendre. Allô, allô. Allô.
Allô, salam alaikum.
Salam alaikum.
Bonsoir tout le monde.
Merci.
Oui, on vous écoute. Vous êtes en direct sur Pastel FM.
Oui, d'accord.
Vous avez une question?
Oui, tout à fait. Enfin, j'en ai deux.
Je t'en prie.
S'il vous plaît, voilà. Enfin, déjà, salam alaikum. Mubarak. Salam alaikum. Enfin, tous les musulmans. Et je voulais intervenir sur un point. Il y a une semaine de ça, enfin le week-end dernier, j'ai fait un saut comme ça avec les enfants du côté de Carrefour. Et à ma stupéfaction, j'ai remarqué les... Vous voyez, il y a des rayons de livres.
Oui.
Dans toutes les grandes surfaces.
Mmh.
Et j'ai remarqué le courant.
Oui.
Les livres de courant.
Oui.
J'étais un petit peu déjà... C'est-à-dire, c'est l'image déjà qui m'a un petit peu frappé.
C'est-à-dire ?
C'est-à-dire...
Vous êtes perturbé parce que les centres commerciaux vendent le courant, c'est ça ?
Voilà. Et il y en avait un particulièrement qui m'a retenu un peu plus l'attention. C'est qu'il était, c'est-à-dire les autres, ils étaient, plastifiés.
Mm-hmm.
Alors, c'est-à-dire bien enroulés en plastique. Et il y en avait un qui était carrément ouvert.
Oui.
C'est-à-dire personne, n'importe qui peut prendre un livre comme d'autres et les feuilleter, quoi, n'importe quelle religion, quoi.
Mmh.
Est-ce que vous trouvez que ça, c'est normal, des gens ?
Bonne question. Alors, vous auriez dû et vous devrez, Inch'Allah, dans l'avenir, lorsque vous voyez dans une grande surface,
oui,
dans le rayon livre, le Coran traduit en français, il faudra vous réjouir et faire un sourire et remercier Dieu qu'alhamdoulilah, la traduction du Coran aujourd'hui est accessible pour n'importe qui, en plus dans des grandes surfaces. Donc c'est quelque chose de très 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 bien, c'est quelque chose même de nécessaire et d'obligatoire.
Oui.
Le Coran doit être présent partout pour que les gens puissent l'acheter, le lire, pour découvrir ce que c'est que l'islam, pour mieux comprendre les musulmans, en quoi ils croient et comment ils se comportent. Donc c'est très très bien, alhamdulillah. Le fait qu'ils soient oui ou non plastifiés, c'est un détail technique. Ce qui importe, c'est qu'alhamdulillah, aujourd'hui, il y a de plus en plus de tolérance et d'ouverture, puisque le Coran est en vente, même dans les grandes surfaces, à côté de la Bible.
Non, je suis tout à fait d'accord avec vous. Bon, c'est j'ai pris un peu le descendant de ça, d'accord, mais je vous ai dit, il y avait un livre qui était particulièrement pour moi, qui m'a attiré plus l'attention. C'était un livre qui était, c'est-à-dire carrément ouvert.
Ce qui vous embête, c'est que des personnes peuvent le consulter, c'est ça ?
Voilà.
Y compris des non-musulmans.
Voilà. Les gens, quand ils voient, par exemple, un livre qui est le Coran, c'est des gens, ils doivent comprendre que c'est pas un livre qui
comme les autres.
Enfin, c'est un livre particulier.
Alors, je vous arrête.
Oui.
Il est évident que le Coran est un livre particulier pour nous, les musulmans, qui croyons, c'est la parole de Dieu, d'accord. Et nous avons tous une approche bien particulière quant au moment de lire le Coran et au moment de l'utiliser. Mais notre manière de nous comporter avec le Coran est propre à nous musulmans parce que nous avons justement cette croyance. Et il n'est pas demandé aux non-musulmans de se comporter de la même manière que nous musulmans parce que le Coran n'est pas sacré pour eux. Pour eux, c'est un livre comme les autres. D'accord. Et il n'est pas demandé, justement, aux non-musulmans, par exemple, d'avoir les ablutions pour lire le Coran. Comme la plupart des savants musulmans disent qu'il est recommandé, avant de lire le Coran, d'avoir ces ablutions. Mais pour les non-musulmans, puisqu'ils ne sont pas musulmans, ils ne doivent pas pratiquer la religion musulmane, donc ils ne doivent pas faire leur ablution pour lire le Coran. En plus, je vous apprends quelque chose, c'est celui qui achète ce livre et qui le lit, donc quelqu'un qui n'est pas arabophone, qui est francophone, qui achète la traduction du Coran, sachez que tout ce qu'il a fait, c'est qu'il a lu la traduction du Coran. Car le Coran, c'est le texte en arabe. D'accord ? Donc celui qui lit une traduction du Coran n'a lu que l'interprétation d'un être humain de la parole de Dieu. D'accord ? C'est comme si vous lisez n'importe quel autre livre. Je parle de vous, musulmans, c'est-à-dire moi, en tant que musulman, je n'ai pas à faire mes ablutions quand je lis la traduction du Coran, quelle que soit la langue dans laquelle je le lis. Maintenant, les non-musulmans peuvent lire le Coran en français, la traduction du Coran en français, ou le Coran en arabe, sans leur ablution n'importe où, n'importe comment, parce qu'ils ne sont pas tenus de respecter les règles islamiques parce qu'ils ne sont pas musulmans. Allez-y.
Moi, je dirais que moi, juste une chose.
Excusez-moi, monsieur. C'est pas que je veux pas vous. C'est parce qu'il semblerait qu'on ait quelqu'un d'autre derrière, donc on va peut-être pas trop s'étendre sur le sur ce sujet. Mais vous aviez dit que vous aviez une deuxième question. Alors, oui, si vous pouvez la poser assez rapidement, et comme ça, on va permettre à d'autres auditeurs et auditrices d'intervenir aussi.
D'accord.
Excusez-moi, merci.
Je vous remercie de me donner un petit peu ce...
Excusez-moi.
Une deuxième chose, bon, elle est chaque année d'actualité. C'est surtout l'organisation du Hajj. Mmh. Est-ce qu'on ne peut pas trouver, pour une fois, je dirais, se rassembler? On a des représentants de l'OIF, on a des grands représentants musulmans qui s'occupe des organismes de ces lieux, de ces mais
d'accord, j'ai compris votre question.
Pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas, c'est-à-dire à une fois faire les choses dans les bonnes choses et dans les bons du forme,
oui.
Hein, que comme on l'a vu il n'y a pas si longtemps que ça sur un document sur Paris, des gens qui ont été futés, qui ont été escroqués, qui ont été, et les gens qui
tout
sont partis faire ça.
Oui. Barakallahu fik, hein.
Voilà.
Merci pour votre souci
voilà.
Et votre bonne intention. Vous voulez que les choses aillent bien, c'est très bien, alhamdoulilah, elles iront de mieux en mieux grâce à vous, grâce à des gens qui justement condamnent toutes ces arnaques, ces escroqueries lors du pèlerinage ou lors d'autres manifestations. En tout cas, sachez que, bon, je vais pas dire que l'année prochaine sera mieux que cette année, mais on fera tout pour que l'année prochaine il y ait moins d'escroqueries, inchallah. Mais sachez que les escrocs évoluent aussi dans leur malicité. À chaque fois qu'on leur ferme des portes, ils arrivent à en ouvrir des autres jusqu'à ce qu'inchallah ils disparaissent. Et croyez-moi qu'ils sont en voie de disparition.
Mm-hmm.
Parce que ce soit l'État français ou les organismes officiels musulmans, ben, tous les deux sont en train de réagir et d'agir par rapport justement à l'organisation du pèlerinage. C'est vrai que depuis quelques années, malheureusement, lorsque la structure officielle qui est censée représenter les musulmans n'a rien fait et elle ne s'est pas attelée à travailler. Mais là, apparemment, le dossier est pris en main par des gens, inchallah, qui ont la volonté de changer les choses. Mais ça reste toujours que chaque citoyen musulman est tenu d'être vigilant et de ne pas se faire piéger parce que certains, je veux dire, leur arnaque, elle a été flagrante.
Mmh.
Vous savez, tous ceux qui vous font de la pub pour le pèlerinage 3 mois avant sont pour la plupart des escrocs et des menteurs. Mmh. Parce que c'est
à des prix défiant toute concurrence.
Quand c'est à bas prix, quand c'est vraiment, vraiment pour rien du tout, sachez qu'il y a une arnaque derrière.
De toute façon, il y a des structures qui ont pignon sur rue. C'est parce qu'on a, on a abordé déjà la question. Il y a eu une émission spéciale aussi qui avait été faite par rapport à des choses qui se sont passées sur Roubaix. Donc on rappelle un peu, il y a des structures qui ont pignon sur rue, des agences qui ont fait déjà leurs preuves. Il suffit de travailler avec elles. Il ne faut pas forcément s'adresser à une nouvelle parce qu'elle a fait une annonce 3 mois avant avec des prix 50% moins chers que qu'ailleurs.
Les visas sont donnés vraiment à la dernière minute en plus.
Oui. Les visas sont délivrés aux agences de voyage après avoir fourni les contrats de location.
Ouais.
Vous entendez? Certains vendent des billets aux gens alors qu'ils n'ont même pas les contrats de location sur à la Mecque et à Médine. Ensuite, quand ils vont faire les visas, ben, les visas ne peuvent pas être donnés parce que... Non, il faut faire attention, certes, il faut être vigilant et il faut éviter les rabatteurs. Hein? Beaucoup de rabatteurs sont des gens qui promettent monts et merveilles. Ils vendent la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Et généralement, ben, les gens se font avoir. Par qui? Par ces rabatteurs-là.
Bien, Farid, tu nous as dit qu'il y avait d'autres personnes, on va les prendre. Ah, allô?
Allô?
Oui.
Bonsoir.
Bonsoir.
Salam alaikum.
Oui, comme ça, on s'entend.
Au lieu de faire pas, je vais reprendre la discussion parce que je vais être bref et précis.
Oui, il faut être bref parce qu'il y a encore d'autres personnes. Et à l'origine, le standard, c'est aussi pour poser des petites questions, pas pour s'étendre.
Je vais attendre 21h30, mais le hasard a voulu que j'intervienne. Et j'ai dit à mon frère qui vient de parler de deux manières. Man khanana falaysa minna. Ça, c'est le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Man khanana falaysa minna. En français, on dit celui qui t'a eu la première fois, c'est pas de ta faute, mais s'il t'a eu une deuxième fois, c'est de ta faute. Assalamu alaikum. Moi, je viens d'intervenir à la chrétienté. Smahli Hassan.
Oui.
Parce que tout à l'heure, je viens d'intervenir, mais smahli, j'interviens d'une manière ummi. C'est-à-dire, on a une culture orale, je l'assume. J'ai un gros respect pour la culture écrite. J'ai pas grande connaissance parce que mon destin m'invite autrement. Mais l'oralité m'a fait comprendre que actuellement la chrétienté, moi ce qui me fait mal au cœur, et je vous écoute sincèrement, c'est que Beit Lahm, des chrétiens arabes, ils sont en train de se plaindre. Tout ce charabia, moi je critique, pardonnez-moi, je suis citoyen de ce pays, ils sont en train de se plaindre la tyrannie d'occupation, sans les nommer, des chrétiens arabes sur le Père Noël que les Américains ils sont en train de faire. Aïssa, Sidna Aïssa, on le croit parce que nous, on croit un jour, il va se ressusciter. Je crois. Mahli, je me laisse un peu m'exprimer, si vous permettez. Mariam, le seul truc que je retiens moi oralité, lorsqu'il a enfanté, c'était soit un palmier, ou Bekalia, tu mets ta main et tu vas recevoir des dates. Et toi, le ciel t'aidera. Nous, c'est la bonne foi. On n'est pas. C'est-à-dire le musulman, il a incarné l'esprit d'Abraham depuis Adam jusqu'à ce temps-là. Et on l'a su. Pardonnez-moi, et puis j'ajoute, puis je termine.
S'il vous plaît, oui.
Alors, et c'est lui qui a enfanté même Sidna Issa, la laïcité, puisqu'il a dit on va rendre à César ce qui appartient à César, et à Dieu ce qui appartient à Dieu, alors qu'il ne vient pas nous raconter des histoires. S'ils veulent voir la chrétienté, c'est des Arabes d'ailleurs chrétiens qui sont actuellement ils sont en train de souffrir par la faim, alors de grâce qu'ils arrêtent, et c'est les musulmans, pardonnez-moi, et Hassan, avec tout le respect que je vous dois, laissez-moi dans mon dilemme, pardonnez-moi, avec tout le respect que je vous dois, les musulmans, ils n'ont rien, ashhadu an la ilaha illallah, sallam muhammad rasulullah, thumma ala rasulil balagh, le reste, voilà, que le problème, c'est le sa'a. Une crainte, il y a quelque chose de plus fort, il faut qu'on soit digne. Et on va transmettre, on n'est pas à leur merci. Ces défauts sont graves, mais on a tellement supporté de grâce, même ils vivent. Moi, ma tête, s'ils veulent me la couper, qu'ils me la gardent, qu'ils m'enlèvent tout.
Personne qui va me couper ta tête.
Merci pour votre intervention. Merci. Merci. On va reprendre. Il y avait d'autres auditeurs ou auditrices qui avaient appelé. Ils se sont peut-être impatientés, donc ils ont raccroché. On leur demande hein, s'ils veulent rappeler 21h30, il n'y a pas de souci. 0320-73-59-00. Ils peuvent rappeler. On va s'opérer une très courte pause et on reprend l'émission tout de suite après, Chabin. On est de retour sur la zone de passe téléphone 99.4, 21h passées de 37 minutes, l'émission La Prophétie sur Sidna Issa, Jésus et bien sûr on en parlait avant de Mariam. Je vais poser une question puisque il y avait la Sève et la mosquée de Vinodas qui organisent Fektikbir l'édition 7, donc 7e année, à l'espace Concorde le 23 décembre. L'espace Concorde c'est le quartier Cousin Ring. Hein. À Vinevdask, donc le 23 décembre à partir de 18h, il y a des places à gagner. On va poser une première question, Jérona. On a parlé de Mariam, on a parlé de sa famille. On va poser la question suivante. Quel est le nom du grand-père de Aïssa?
Voilà. Faute d'avoir un père.
On est parti une génération au-dessus. Donc, quel est le nom du grand-père de Aïssa, de Jésus? 0320-73-59-00, 0320-73-59-00. Une place à un festival Fektikbir à gagner à l'espace Concorde le 23 décembre à 18h à Vinevdask. Voilà la question. Donc, 0320-73-59-00. On va reprendre, on entendra qu'il y a des auditeurs ou auditrices qui appellent sur la vie de Aïssa. Bon, c'est assez rapide hein, au niveau des réponses. Il semblerait qu'on ait quelqu'un au standard, alors on va la prendre. Oui.
Allô, salam alaikum. Alors,
salam.
Le nom du grand-père de Sidna Issa est Imran.
C'est parfait.
Mmh.
Bravo. Voilà.
C'est une question facile.
Voilà, facile quand on écoute l'émission.
Ouais, voilà, très bien.
C'est bien dit.
Okay. Bah, écoutez, bon, vous avez gagné une place. Vous ne raccrochez pas, on va prendre vos coordonnées hors antenne, d'accord?
D'accord, merci.
Merci à vous pour votre participation en tout cas.
Au revoir.
Au revoir. Comme ça, Mohamed.
Question suivante.
Une question suivante.
Non. Quelles sont les deux sourates du Coran qui parlent de manière exhaustive de Aïssa et de sa mère, hein? Les deux sourates dans le Coran qui parlent de manière exhaustive de Sayyidina Aïssa et de sa mère.
D'accord. Donc 0-3-23-59-00, les deux noms de sourates où ils ont fait allusion à la vie de Maliam et de Aïssa de façon exhaustive. 0-3-23-59-00. On a déjà quelqu'un, Farid. Vas-y, on va le prendre. Ah, allô.
Oui, allô, bonsoir.
Ah, bonsoir.
Ben moi, j'appelle en fait pour donner un peu mon opinion sur l'appel qui précédait nos
on vous entend mal. Farid, tu peux augmenter un peu le son ou alors parler distinctement. Allô.
Je dis parce que j'appelle par rapport à l'auditeur.
Oui.
Précédent, là, le monsieur là, qui dit que c'était choquant de trouver le Coran dans le supermarché.
Ah oui, oui,
moi, je dirais que on devrait dire Alhamdoulilah, ouais, parce qu'en fait, c'est comme si on pouvait dire quelque part que c'est la bénédiction d'Allah qui fait venir les gens à lui.
Tout à fait.
Et non pas l'inverse.
Exactement.
Et comment on va gagner beaucoup de musulmans et beaucoup de frères comme ça, c'est que le livre, il est à la portée de tous.
Vous avez raison.
À la vue de tous. C'est-à-dire que même si un aveugle va là-bas et qu'il ne sait pas lire, il peut demander qu'on lui lise.
Oui. Il existe en braille, hein, le Coran, maintenant.
Voilà, par exemple.
Oui.
Donc, je vais dire que vous pouvez chercher comme vous voulez, le Coran, il existera toujours dans tout.
Femme de l'Église.
Que ce soit en braille ou... Mais, je veux dire, il y a des trucs, quoi. Il y a des trucs qui sont placés. Oui. Et que le destin, après, c'est lui qui s'en occupe.
Tout à fait. Hein, merci pour votre remarque.
C'est toute une mécanique invisible.
Effectivement.
Il n'y a qu'à Rabbi qui voit ce que c'est.
C'est bien
on
dit.
On ne peut pas le voir.
Exactement. Bon,
alors, moi, c'est simplement pour dire que, parce qu'il y a des gens qui sont peut-être en avance sur leur âge, et c'est vrai que c'est à cet âge-là qu'on commence à penser beaucoup sur la religion, comment on va y rentrer, comment s'y préparer, parce que vous avez des gens qui commencent à devenir musulman très tard. Très
oui.
Tard. Mais tard ne veut pas dire pas du tout.
Tout à fait.
Bon, par contre, chez les chrétiens, chez les catholiques, bon, ils ont une autre façon de faire, hein, c'est comme ça qu'il faut dire, parce que je dis qu'un musulman bien loti, il va pas s'amuser à critiquer la religion de l'autre. Forcément. Parce que c'est mettre sa sécurité de musulman à découvert. Et ça, c'est pas possible. C'est le respect, la politesse, c'est... Je veux dire, on a même des façons de dire, de répondre à quelqu'un.
Tout à fait.
Un musulman, déjà, qu'est-ce qu'il montre ? Une autorité, mais naturelle.
Oui.
Bien.
On sent que c'est un homme catégorique. Bah, je veux dire, moi, j'habite en cité, quand on me répond très mal, bah, les gens... je leur réponds d'une façon qui leur fait comprendre. Je suis... qui toi tu penses ? Mais en fait, c'est pas celui que je suis. Voilà, j'ai une force pour te répondre qui vient de... Même moi, je ne sais pas. Là, on est catégorique.
Merci.
Très explicite.
Merci pour votre intervention.
Voilà.
Merci. Hein.
Allez,
merci. Merci, pareillement. Merci. J'entends même son 13-59-00. On a peut-être quelqu'un pour une autre question. Oui, allô. Allô, allô. Allô, non. On n'a personne. Bon, au niveau du standard, vous assurez pas trop, là, hein, les gars. Bref, on va reprendre. Donc, je rappelle la question hein, qui avait été posée, deux sourates que tu avais citées, cher Colin, sur où l'histoire de sur la vie d'Aïssa et de Maliam est racontée de façon exhaustive. Quelles sont ces deux sourates, 0-3-23-59-00, une place au festival à gagner. Ah, allô.
Oui, salam alaikum.
Comme ça, Marhoum Thomas.
Bah, c'est pour la réponse, donc c'est la surat Maryam et la surat Imran.
C'est parfait.
Okay.
Ouais. Bon, okay. J'allais dire qu'il y avait une petite imprécision, mais
c'est
on l'accorde quand même.
Surat Ali Imran.
Oui, ouais, la famille d'Imran.
Voilà. Ok.
C'est très
bon, on l'accorde quand même parce qu'on est...
Félicitations.
Alors, vous ne raccrochez pas, on prendra vos coordonnées hors antenne. Et donc vous avez gagné une place au Festigbir édition 7, donc c'est à l'espace Concorde le 23 décembre 2008 à 18h à Villeneuve-d'Ascq.
Voilà, 03 73 59 00. On peut proposer une troisième question?
Une troisième.
Dans la foulée?
Dans la foulée. Quel est l'oncle de Mariam qui l'a adopté spirituellement et qui l'a éduqué?
Donc quel est l'oncle qui a éduqué de façon spirituelle Mariam et qui est aussi bien sûr l'oncle de Mariam? 03 20 73 59 00. 03 20 73 59 00.
Le standard il chauffe, c'est rapide. Ah, allô?
Assalamu
alaikum. Alaikum
salam. Assalamu alaikum.
Mais je crois que j'ai la réponse maintenant dans la NM. Est-ce que ce serait pas Zakaria?
Si, c'est lui.
Bravo. Oui?
Comment vous avez fait pour trouver?
J'ai écouté la phrase de Mariam plusieurs fois et voilà, donc je
Bravo.
Suis pas mise de répondre.
Très bien. Vous nous appelez d'où là?
De Tourcoing.
Tourcoing, très bien.
Magnifique.
Vous... Par contre, je voudrais savoir, je voudrais.
Poser une question?
Un peu trop tard. Non, revenir sur le Coran dans le supermarché en fait.
Oui.
En fait, moi j'ai un petit peu peur de l'interprétation que les gens vont voir quand ils vont lire certains versets. C'est ça qui me fait peur le plus, sinon le reste.
Bah écoutez, ça on peut pas l'empêcher, je veux dire celui qui lit le Coran, qu'il soit musulman ou non, peut comprendre le Coran de manière erronée comme il peut le comprendre de bonne manière. Je veux dire, ça on peut pas l'empêcher, il faut pas empêcher et interdire aux gens de réfléchir.
C'est comme tout autre livre, hein.
Oui.
Non, ce que je veux dire par là, c'est que moi personnellement, en tant que musulmane, enfin il y a des versets qui si on n'a pas une interprétation à côté, ou on peut pas, enfin, on trouve qu'ils sont assez violents ou assez, ils sont assez
compliqués
à comprendre.
C'est-à-dire, le Coran nécessite une certaine connaissance au préalable de l'islam et de ses fondements pour bien le comprendre. Vous avez raison.
Mm-hmm.
Vous avez raison à 100%. La solution, c'est quoi? Ben, c'est de proposer dans les grandes surfaces des traductions du Coran commentées, annotées avec des notes infrapaginaires. D'ailleurs, c'est ce qui se passe, alhamdoulilah, pour beaucoup de traductions maintenant. Vous avez des notes pour expliquer certains versets qui peuvent paraître obscurs ou qui peuvent choquer certains novices.
Mm-hmm.
Donc c'est ça la solution, hein. C'est des bonnes traductions accompagnées de notes explicatives et exposer le Coran avec d'autres livres, d'accord, pour que justement les gens puissent approfondir leur connaissance de la religion. Merci pour votre remarque.
Merci pour votre appel. Ne coupez pas, on va prendre vos coordonnées hors antenne. La clofée.
C'est parfait.
On reprend.
On reprend. Et on disait donc tout à l'heure que le Coran insiste, hein, et il parle de la mère de qui? De Mariam. Pardon.
De Aïssa.
De la mère de Aïssa. D'accord, pour dire que bon voilà, il n'a pas de père, hein, biologique, et ça ne doit pas vous choquer parce que Dieu est capable de tout. D'ailleurs, entre guillemets, c'est une expression juste pour que les gens comprennent, parce que les gens qui ont du mal à croire que Jésus n'est pas de père.
Mm-hmm.
Hein, je parle de croyants, hein, attention, hein, je parle pas des gens qui ne reconnaissent pas la divinité.
Mmh.
Ceux-là, ils ont tout à fait raison de ne pas croire que Jésus n'a pas de père, puisqu'ils ne croient même pas en Dieu. D'accord, hein? Mais je parle de certains croyants qui sont étonnés, qui disent non, c'est pas possible que Sayyidina Issa n'ait pas eu de père. Ok, ça m'a choqué. Dieu leur répond à ces gens-là. Hein? Dans la sourate Ali Imran, Dieu dit « Inna mathala Issa indallahi kamathali
Adam ».
Voilà, la logique du Coran. L'exemple de Jésus, hein,
elle est aussi miraculeuse que
celui
que
d'Adam, voire doublement. Moi, Jésus, il avait une mère. Adam, il n'avait ni père ni mère. Il a été créé par Dieu sans intermédiaire. Donc, le Coran, ici, nous enseigne une vérité qui est la suivante. Inna Allaha ala kulli shay'in qadir. Dieu est capable de tout. C'est ça l'objectif. Et Dieu aurait pu très bien octroyer à Sayyidina Issa un père biologique, comme ça a été le cas pour tous les prophètes. Mais il a voulu exprimer. Pourquoi? Pour que l'on sache que Dieu est capable de tout.
Mm-hmm.
Il a créé Adam sans père ni mère. Il a créé Issa sans père, mais avec une mère. Et nous, il nous crée avec un père et avec une mère. Donc, toutes les combinaisons sont possibles pour Dieu, puisque c'est lui le créateur, c'est lui qui décide de tout. Donc ça, sont des enseignements tirés de l'histoire de Sayyidina Isa. Les informations que nous donne le Coran, donc, c'est qu'elle l'a mis au monde. Bon, je ne sais pas certains détails que vous pouvez aller consulter dans le Coran. Et quand elle l'a mis au monde, elle va rencontrer une première difficulté, qui est les réactions de son peuple, qui sont des croyants. Ici, Maryam va s'adresser à qui ? Aux enfants d'Israël, qui à cette époque-là sont en partie présents en Palestine, qui croient au prophète, qui croient au livre. Mais quand elle leur a proposé d'adhérer à ce miracle divin, ils ont été choqués et ils ont rejeté Sayyidina Isa. Donc pour ça je vous dis, il y a des croyants qui croient jusqu'à un certain degré, jusqu'à un certain niveau. Après ils arrêtent de croire. Non, là c'est trop. J'accepte tout, mais pas ça. Alors que celui qui croit réellement Dieu, il accepte tout ce qui vient de Dieu, et, puisque Dieu est capable de tout. Mais le problème, il est dans quoi ? Il est dans le dogme en lui-même qui est fébrile, hein, qui n'est pas solide. Donc, le premier choc. Et on l'accuse. Elle, la sainte, elle, la femme pure, la femme pieuse, on l'accuse de quoi ? On l'accuse de fornication. Et elle n'a aucun moyen de se défendre si ce n'est d'exprimer sa bonne foi, d'exprimer sa sincérité, mais ça ne marche pas avec ces gens-là. C'est pour cela, deuxième miracle, troisième pardon, puisque déjà Maryam est née de manière miraculeuse. Donc le troisième miracle, c'est quoi ? C'est que l'enfant va parler dans le berceau.
Donc le bébé. Ah, il sent en tant que bébé.
Exactement. Et qu'est-ce qu'il dit quand il prend la parole ? Pour défendre qui ? Pour défendre sa mère. Hein ? Il ne cherche pas à se défendre lui pour l'instant, puisque ce n'est pas lui qu'on accuse, mais c'est sa mère. Il prend la parole pour défendre sa mère en disant « Inni Abdullah ». Alors que, à ce moment-là, l'accusation était « Ta mère, c'est une femme de mauvaise mœurs. » Lui, première chose qu'il dit, je suis le serviteur de Dieu. En fait, il ne répond pas dans un premier temps ces gens-là. Ouais. Parce que ces gens-là qui refusent de l'accepter comme fils de Maryam sans père vont disparaître. Ouais. Le problème, ce sont ceux qui vont venir après et qui vont reconnaître Sayyidina Isa et qui vont, eux, exagérer. Comme les autres ont exagéré. Les autres n'ont pas voulu reconnaître la puissance, la grandeur de Dieu qui a créé Isa sans père. D'autres vont venir et croire en Sayyidina Isa. Et au lieu de reconnaître que c'est un être humain qui est né avec toutes les faiblesses de l'être humain, ils vont quoi ? Ils vont le diviniser. Ils vont lui donner le statut de Dieu, de fils de Dieu. Donc, dès qu'il prend la parole, la première chose qu'il dit, Inni Abdullah. Je suis l'adorateur, le serviteur de Dieu. Ne vous trompez pas. D'accord ? Avant même de défendre sa mère, il défend ce qui est plus important que sa mère, c'est-à-dire la divinité, c'est-à-dire Dieu lui-même. D'accord ? Pour ça, le musulman ne doit pas se tromper. Il doit toujours mettre Dieu, ensuite ses parents, ensuite lui. Dans cet ordre. Donc qu'est-ce qu'il dit ? Qala inni Abdullah. Atani al-kitab wa ja'alani nabiyyan. Je suis le serviteur de Dieu. Ma mission, c'est quoi ? C'est de vous transmettre le message qu'il m'a donné et je suis un prophète. D'accord ? Je suis quelqu'un de béni wa ja'alani mubarakan. Qui va faire des miracles, d'accord ? Le Coran cite dans les Imran certains de ces miracles. Et il m'a été recommandé d'être quelqu'un de pieux en accomplissant la salat, la prière, et l'aumône, en pensant à qui ? Aux pauvres déshérités. Et il m'a demandé d'être un enfant respectueux, obéissant, وَبَرَّنْ بِوَالِدَتِي, hein, vis-à-vis de qui? Vis-à-vis de ma mère. وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًا, il n'a pas fait de moi quelqu'un de tyran, hein, quelqu'un de méchant qui va désobéir à sa mère, qui va être ingrat vers sa mère, et puis qui va exprimer aussi ses défauts vis-à-vis des autres personnes. Donc ce qui est magnifique ici, c'est cet enfant, hein, ce bébé, qui normalement à cet âge-là ne parle pas. Mais bon, c'est pas la première fois qu'on voit le miracle, on a déjà vu d'autres. On continue, hein, dans cette lignée. Et subhanallah, je ne sais pas si vous avez remarqué, hein, mais vous voyez cette famille, comment elle est bénie, hein. Ils vivent que dans
à travers des miracles.
À travers des miracles. En permanence. Même Mariam, elle était nourrie directement par Dieu, sans intermédiaire. Donc ils vivent dedans. Donc ils avaient une foi extraordinaire. Bon, c'est normal, parce qu'ils vivaient une époque difficile avec des gens incrédules. Des gens qui vont voir les miracles et malgré cela ils ne croiront pas, ou malgré cela ils vont les combattre. C'est-à-dire qu'ils vont combattre ces personnes. Vous savez qu'Yahya a été tué, Zakaria a été tué. D'accord ? Et Issa, entre guillemets, a été tué. Dans la tradition chrétienne, il a été tué. Pour nous musulmans, ils ont essayé de le tuer, mais ils ne l'ont pas tué. Mais ça reste toujours que.
Une tentative.
À une époque où les gens sont sans limite. Hein, ils s'attaquent à qui ? Ben, ils s'attaquent à Dieu à travers ces créatures merveilleuses qui sont ces prophètes, ces gens pieux, qui leur ont prouvé A plus B qu'ils étaient la volonté, la main de Dieu, puisque les miracles étaient là en permanence pour leur rappeler. D'accord ? Et Issa alayhi salam, il dit wassalamu alayya yawma wulidtu wa yawma amutu wa yawma ub'asu haya, hein, que la paix m'accompagne et soit sur moi à ma naissance. D'accord, il avait besoin de demander à Dieu la paix parce qu'il voulait sa peau déjà, puisqu'il méritait à cette époque-là, lui et sa mère, ou plutôt sa mère, la lapidation. D'accord, et le jour où je mourrai, le jour où je serai ressuscité. Donc ça veut dire quoi? C'est dire qu'il est mourant. D'accord, il va mourir, il va être ressuscité. Donc nous musulmans, nous croyons qu'effectivement Sayyidina Issa va mourir. Donc si nous disons qu'il va mourir, c'est dire qu'il n'est pas encore mort. Il a été rappelé au ciel, il est vivant jusqu'au jour d'aujourd'hui. Donc vous voyez, il est toujours dans le miracle, puisque ça sort des lois naturelles. Un être humain, il ne vit pas autant d'années. Pour lesquelles on a une exception. C'est Dieu qui donne la vie, c'est lui qui donne la mort. Il va revenir sur terre vers la fin des temps. Pourquoi? Pour expliquer aux gens la vérité, hein, la divulguer, la diffuser de manière claire et nette. Plus personne ce jour-là ne doutera. Et il mourra, il sera enterré à Médine, aux côtés du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, puisque le prophète lui-même a annoncé sa venue, et il a annoncé entre autres sa place, hein, dans la tombe qui reste, cet emplacement qui reste vacant à côté du prophète sallallahu alayhi wa sallam à Médine. Voilà, ça veut dire ça.
Allez, sallallahu alayhi wa sallam. 21h57, il était prévu 4 places à gagner, on peut poser une quatrième question.
Bien sûr qu'on peut la poser.
Non. J'avais une idée, mais bon, je sais pas. On a parlé de plusieurs miracles qui ont accompagné cette grande famille. Au moins 3 miracles. On peut peut-être les demander de préciser. Je sais pas, qu'est-ce que t'en penses? Oui.
Très bonne question.
C'est en 3 1 5 3 59 0 0 pour gagner une place, la quatrième place au festival Festik Bel édition 7. Donc je rappelle la question, hein, on a cité au moins 3 miracles qui accompagnent cette grande famille qui a fait l'objet de notre émission ce soir. Est-ce que vous pouvez nous citer ces 3 miracles? 0 3 1 5 3 59 0 0. Alors, en attendant qu'on ait quelques auditeurs, si tu veux rappeler quelques petites informations. Donc Festik Bel, bon, ça je l'ai dit suffisamment.
C'est une info qui nous arrivait, donc dimanche 28 décembre 2008, un festival de 14h de 14h à 18h à la salle Aliende, c'est à Moskel Wefat à Mons. Passe-passe aux frais de 2 euros. Je vous explique en détail parce qu'on a une personne à l'antenne, on va la prendre.
Allô? Allô, allô?
Allô, salam alaikum.
Salam. Salam. Salam.
J'appelle pour les réponses.
Allez-y.
Bon, pour les miracles.
Oui.
Ouais.
Donc, un des miracles, c'est quand il a parlé d'enfant berceau.
Tout à fait.
Oui.
Un deuxième miracle, c'est que il soignait les lépreux.
Oui.
Alors, oui, on parlait des miracles qu'on a cités dans l'émission, mais bon.
On va éteindre la radio, c'est derrière.
C'est quand même un miracle.
C'en est un, ouais. Et d'ailleurs, il s'appelle El Masih.
Voilà.
Oui, troisième.
Le troisième, je l'avais en tête.
Mais tu l'as oublié.
Ouais.
En tout cas, il était pas maçon, Saïd Naïs. Elle était quoi?
Hein?
Il était quoi, Saïd Naïs? Elle était pas maçon.
Non, mais presque.
Presque. Charpentier.
Il était manœuvre.
Il était manœuvre
à Pécancourt.
D'accord.
Troisième. Attends.
Sinon, on a quelqu'un d'autre derrière qui est prêt à donner la réponse.
Il va tout gagner. T'as dit deux. Il soignait les lépreux et ouais. Il a parlé dans le berceau.
Ouais, et puis il est pas mort.
Il est pas mort galé.
C'est un miracle.
Ah, voilà. On peut pas dire non. Ouais. Bravo, Abdelaziz. Allah y barik fik. En tout cas, tu as gagné ta place au Festival Kbir ici à Villeneuve-d'Ascq.
Bon, ouais, c'est à l'antenne et on va prendre les coordonnées. C'est que le standard est en train d'exploser là derrière. Il y avait de l'agitation au niveau de la
technique.
Je rappelle l'info que j'ai donnée tout à l'heure, donc le dimanche 28 décembre, un festival de 14h à 18h à la salle Aliende, à la mosquée Louis Fakh à Mons. Et il y aura la compagnie Miroir des Signes. Qui joueront riche ou pauvre et le groupe Al-Firdaus qui sera présent. Le Festiraid à Avion, quartier République de 14h à 19h. Par contre, il n'y a pas la date, c'est vrai, le Festiraid.
C'est dimanche là. Oui, après-demain.
Donc, Inch'Allah, le 21. Dimanche 21, donc avec Omar Lasfar et Hassan Ekissen ici présent, groupe de chant, de sketch, l'entrée est gratuite. Donc c'est à Avion, quartier République. Voilà pour ça.
Mouska Boubacar aussi qui organise trois places Federbe à Roubaix, une conférence comment éviter la perdition, donc conférence ouverte aux femmes. Ce sera le 3 janvier à 15h à la Mouska Boubacar, trois places Federbe à Roubaix.
Le 27 décembre à 19h30, ça c'est à Roubaix aussi, conférence du frère Youssef, donc l'ancien imam de la mosquée des Trois Ponts, le vrai sens de la fraternité à l'espace Jules Brun qui se trouve juste à côté de la mosquée des Trois Ponts. Donc voilà, l'entrée est de 5 euros, un numéro de téléphone, le 06 84 15 41 97. Barakadam fikoum.
Bon voilà, on termine... Parce qu'on a dit en début d'émission, on souhaitait une bonne fête de Noël à la communauté chrétienne.
Tout à fait.
Ce sera la prochaine fois. Nous, on se retrouve vendredi prochain. On donne le relais à l'émission Safina, proposée par JMS Section Tourcoing. Donc, vous êtes toujours branchés sur les ondes de Pastel FM, 22h jusqu'à 23h, avec Safina sur la culture du chant religieux, proposée par JMS Section Tourcoing. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.